Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours Guy Ménard, l'animation, en compagnie de Pierre Pageau.
Bonjour, Guy.
Et nous poursuivons cette rétrospective, d'une certaine façon, des 22e rencontres internationales du documentaire de Montréal qui ont débuté ce jeudi et qui va se poursuivre jusqu'au 24 novembre.
Voilà.
Donc, dans un deuxième temps, bien sûr, nous recevons Michel Kazongo. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Afin de parler du film Pas d'art pour Calsaca.
Calsaca.
Et en fait, votre film expose un peu les conséquences sociales et environnementales de l'exploitation d'une mine d'or sur les habitants du village. On pourrait résumer ainsi le film.
C'est ça.
Mais la particularité, c'est que vous rencontrez ces habitants après le départ de la mine.
Oui.
Et donc, c'est les conséquences qui vous intéressent.
Exact, oui, c'est ça, oui.
Et au départ, c'était ça la volonté
Mais y avait-il beaucoup d'archives sur le... Ben, on voit des images de l'ouverture, les notables qui se félicitent de ce merveilleux projet. Incroyable, qui va rendre le pays...
On va avoir beaucoup d'or, on va être riche. Effectivement, ce qui m'a intéressé, c'était après la mine. Pour la petite histoire, pour vous situer le contexte, le Burkina Faso fait partie des pays en Afrique aujourd'hui qui a lancé l'exploitation de ces mines d'or. Donc, toutes les mines sont en exploitation. Rarement des mines sont fermées. Donc, c'est la première mine qui est fermée.
OK. Et Calsaca, il semblait, selon votre film, ce que j'ai bien compris, une des premières.
Exactement, à être lancée.
Ouais,
dans les années 2000, 2003-2004, c'est ça.
2003-2004.
Oui, exact,
Et lorsque les gens arrivaient, on semblait leur promettre effectivement l'or.
Oui.
Et les gens y croyaient.
Bien sûr. Ils croient à leur gouvernement, ils croient à leur État.
Il y en a qui dit parce que cela vient du gouvernement.
Exactement. Ils sont loyalistes, ils sont légalistes. Ils pensent que si c'est l'État burkinabé qui décide de venir avec une société multinationale exploiter l'or, et en plus avec des promesses en public. Le ministre de la mine promettait qu'il y aura des infrastructures, il y aura des bourses pour les étudiants, il y aura plein de choses. Donc ils ont fait confiance. C'est vrai, ils faisaient confiance, oui.
Mais il y a eu quelques réalisations d'après votre film. On voit quelques bâtiments qui sont filmés de loin qui donnent l'impression qu'ils ont tenté de laisser du positif un peu.
Non, pas du tout, les bâtiments, c'est les bâtiments de la société minière qui est toujours leur propriété aujourd'hui.
OK. Oui, donc, exactement. C'est pas comme une école ou un dispensaire.
Oui, ils ont fait juste un dispensaire et trois écoles qui n'ont pas équipé, juste les bâtiments. Donc, c'est dérisoire. Si on calcule un peu en fonction de la quantité de l'or qui a été exploité, et c'est pas ce qu'il fallait. Il y a 18 tonnes d'or qui est parti de ce village et qui est déclaré officiellement.
Parce que ça, vous le mentionnez plusieurs fois dans votre film. Hein,
je ne suis pas sûr.
Qu'on ne saura jamais exactement les tonnes d'or qui ont sorti ce village-là.
Bien sûr.
Mais ce qui est intéressant dans votre film, c'est que vous ne critiquez pas, je veux dire, ces gens-là, parce que, comme vous le mentionnez, on arrive avec des propositions alléchantes. Et inévitablement, si on leur mentionne que leur rythme de vie peut s'améliorer, on y croit. Mais vous avez un personnage qui, pour moi, ressemble énormément à un griot.
Oui,
c'est un griot.
C'est un griot.
Et qui n'a pas l'âge seulement des griots. Très nombreux.
C'est un griot de temps moderne.
Oui, mais c'est dans de nombreux films africains, ce personnage-là. Fait partie de...
Qui a le symbole du griot, qui a le crieur public, la rumeur.
Crieur public, c'est ça.
Exact.
Mais que lui pose, finalement, un regard un peu ironique, mais derrière son ironie se cache quand même des grandes vérités.
Oui, ce personnage, un peu, c'est moi. C'est ce que je voulais dire, mais ce que je ne veux pas dire moi-même en tant que réalisateur par ma voix. Et je l'ai fait porter par un personnage qui est aussi, comme pour moi, la rumeur. C'est ce que tout le monde pense et c'est ce que beaucoup de gens croient que ce qui allait se faire et ce qui n'a pas été fait. Donc ce personnage, il m'incarne un peu, c'est un peu ma voix à travers ce personnage griot et crieur public qui est aussi le rôle du cinéaste. Pour moi, un cinéaste, c'est aussi un griot ou un crieur public.
Bien sûr.
Voilà, donc je me confonds effectivement.
Oui, c'est un raconteur.
À ce personnage qui raconte, effectivement, comme vous l'avez dit.
Moi, je vais vous parler évidemment les personnages des cowboys.
Ouais.
Parce que en plus, c'est curieux parce qu'au début, il y a une speakerine à la télévision qui dit Et va suivre votre soirée
Western.
Puis, vos personnages. Fait que c'est comme une rencontre entre un imaginaire et un réel, mais c'est, vous les associez du côté des exploitants, des exploiteurs.
Exact.
Bien sûr.
Exact, oui, oui.
Ils sont souvent représentés. On les voit, les cowboys, comme plus les Américains. Là,
oui, oui, c'est un peu une espèce de caricature et de métaphore aussi, mais qui reste dans le cinéma quand même. Ouais. Et l'or, c'est le mythe de l'or. C'est la rue vers l'or un peu, ça.
Ben oui. Puis quand on voit la quantité de poches d'or à la fin qu'ils semblent pouvoir... Ouais,
exact.
Hein, là, le lien est assez...
Il est assez direct.
Direct.
Ouais.
Mais et ça me faisait aussi penser à toute cette période coloniale, qui n'est peut-être pas si loin, parce que derrière, finalement, c'est cow-boy. Bien sûr, ce mythe de la prospérité qui vient de l'Amérique se cache aussi d'autres personnes, individus qui ont utilisé les matériaux souterrains de l'Afrique pour... faire avancer leur propre cause. Hein.
Oui, pour moi, c'est vous l'avez bien dit, il y a les deux métaphores qu'on peut voir, le western qui est le mythe, qui est le dernier mythe de notre monde contemporain, mais aussi de l'autre côté, il y a cette exploitation permanente jusqu'à présent du continent africain par tout ce qui est lié à la colonisation, les richesses, depuis le début, qui continue aujourd'hui. Quand on prend le Congo, quand on prend le Cameroun, quand on prend tous ces pays, le Soudan pour le pétrole, et tout le monde qui est très riche. L'Afrique est un pays, c'est un continent très riche, mais pauvre. Et pauvre parce qu'elle est riche. C'est ce que souvent je dis. Voilà. Donc, effectivement, derrière ces trois personnages, on peut imaginer aussi la prolongation, le prolongement de cette exploitation des ressources naturelles du continent africain par tout ce qui va être la colonisation, la néocolonisation et le capitalisme, pour moi, de façon assez sauvage, excusez-moi le terme, qui continue aujourd'hui à exploiter sans retenue, sans d'une manière, je veux dire, réfléchir comment l'humain va vivre après. Voilà, quand on prend les terres du Burkina qui sont parties, comment les gens vivent?
Ouais.
C'est ça.
L'eau devient la symbole.
Exactement.
Voilà. Parce que l'eau, tout le monde a besoin d'eau. L'eau, c'est la vie.
Oui.
Et là, lorsqu'on découvre, bien sûr, que l'eau est contaminée, ben là, avec des fonctionnaires un peu lents sur le travail là, pour analyser l'eau, mais là, on voit aussi une autre facette du système.
Du système, qui est compliqué, ouais.
Ouais, hein?
Ouais.
C'est lent, en tout cas.
Parce qu'il y a deux situations. Il y a la responsabilité, soi-disant, pour moi, les deux responsabilités. Il y a ceux qui exploitent l'or, qui est une responsabilité parce que, voilà. Mais il y a aussi ceux qui ont laissé exploiter et ceux qui entretiennent tout ce système qui est notre État burkinabé et tout le fonctionnement.
Corrompu.
Voilà, corrompu, très corrompu, qui est comme un terrain, c'est comme un lit. C'est comme si tu prépares une chambre, quoi. Tu vois, on prépare un lit, c'est joli, pour accueillir une belle dame. La belle dame, c'est les multinationales. Et ceux qui vont faire ce lit-là, c'est nos États. Puisque c'est quand même nos États, nos gouvernements qui permettent ça, en fait, à quelque part. Voilà. Et moi, je fais partie de la société civile, je fais partie de la population. Moi, pour moi, notre devoir, c'est de dire que ça existe. Voilà, pour ne pas être complice aussi. Et voilà, c'est un peu ça, la caricature
C'est votre rôle que vous jouez en tant que documentariste.
Exactement. Je suis dans mon rôle de... Vous avez dit, premièrement, je n'ai pas dénoncé. Je n'ai pas accusé.
Non, vous n'êtes pas accusé.
Voilà, exact. Parce que accuser, pour moi, ce n'est pas fort. Accuser, c'est facile. Il faut poser le problème. J'ai posé. Ils ont dit qu'ils vont faire... De cette petit village, Paris, ça va devenir quoi? Paris. Et après, ils sont partis, je suis allé juste vous montrer, est-ce que c'est devenu Paris ou pas? Donc, c'est plus interpellateur. C'est
Paris au 19e siècle. mais moi, il y a un moment aussi, une intervention de votre part, c'est avec une dame qui est au bord de l'eau.
Du fleuve,
et vous lui demandez, mais vous organisez pas, surtout que de nos jours, les mouvements de femmes, c'est important partout, en Afrique, au Québec.
Exactement.
Et là, vous intervenez sur ce point précis. Est-ce qu'on pourrait souhaiter que les femmes, en particulier, se mobilisent? Vous avez voulu... pointer.
Exact, parce que pour moi, les femmes, c'est partout au monde et plus en Afrique, les femmes ont un poids. elles ont une force mm-hmm. que les hommes ne pourront pas avoir. Chez nous, en même temps qu'on respecte la femme, en même temps on la met un peu à l'écart. Et si les femmes s'organisent, si elles ont une voix, ça sera plus écouté en fait.
C'est ça que vous souhaitez.
Je souhaitais ça, que elle aille plus que les hommes devant. Elle se met devant. Voilà. Elle se plaint de la place parce que pour moi, les hommes ont failli. C'est ça. Excusez-moi, je ne suis pas féministe, mais c'est une réalité. Les hommes, là où les hommes n'arrivent pas, pour moi, les femmes peuvent arriver facilement à faire quelque chose. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas en association, elles ne sont pas en groupement, donc elles sont fragiles encore. Elles sont fragiles vis-à-vis de leur statut social, qui est que dans le milieu traditionnel, la femme a moins de paroles et moins de
paroles. On a vu, c'est toujours des hommes entre eux qui décident. Il n'y a que des cadrages d'hommes.
Voilà, c'est là que je vois ces femmes qui ne sont pas en groupe, qui sont une à une. Et j'aurais envie qu'elles soient comme les hommes en train de chercher des solutions, de chercher des... Voilà, et c'est ça, je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que j'ai poussé à aller dans une forme d'organisation, quoi.
Oui. Mais vos hommes dont vous parlez ont une conscience assez réelle de ce qui s'est produit. Parce que, bon, souvent votre griot dont on parlait plus tôt parle d'une certaine forme d'ignorance. Hein? Ses pauvres sont fait avoir parce qu'il était...
Le mot naïf. Nous avons été naïfs.
Naïf à quelque part. Ils le disent.
Ouais. Oui, ils le disent. Ouais. Mais eux aussi, après coup, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont travaillé dans cette mine et constatent que, soit qu'ils sont handicapés, soit qu'ils n'ont plus rien. Ouais. Donc, ils ont pris la parole sans cacher finalement une erreur.
Exact.
Et ça, je trouve
ils ont été sincères.
Ils ont été sincères. C'est la force de votre film de pouvoir, dans un certain temps, permettre à ces hommes d'expliquer, pourquoi ils ont pu être naïfs et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris et qu'est-ce qu'ils ressentent maintenant devant cette situation.
Oui, ça, vous l'avez bien dit. Ça me plaît aussi. C'était pour moi de les amener à... Parce qu'ils en avaient beaucoup.
Ils avaient beaucoup à dire.
Ils avaient beaucoup à dire. Et il n'y a pas de... Ils n'ont pas de... leur voix ne peut pas aller loin.
Non, mais non. Votre film va permettre aux voix
de... Exactement. C'est expressément fait. C'est expressément fait de leur donner...
Le film va être présenté dans votre pays?
Oui, il a déjà été présenté au grand festival, le FESPACO. Et qui a été très bien. Et il a été encore présenté dans le village à Kalsaka. Et là, c'était tout le village était là, c'était magnifique. Voilà. Mais cette voix, toujours des minorités, partout au monde, des sans-voix un peu qui ont des choses à dire, mais qui n'ont pas le cadre. Et c'est ça, moi, ce film, je leur donne vraiment l'honneur, je les mets haut. Et je pense que c'est un outil puissant, le cinéma, qui peut porter cette voix partout. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis au Canada, à Montréal, en train de parler de ce film qui sera vu. C'est de la magie, presque. Il y a 2 ans, c'était imaginable. Et au Burkina, beaucoup de gens ne connaissaient pas cette histoire, en plus. Vous voyez?
Donc,
pour moi, c'était une volonté de leur donner cette voix-là. Et vous allez remarquer quelque chose, peut-être. C'est-à-dire ça va venir, mais il y a à quel moment donné je donne la voix à une autorité de l'État ou pas.
Non,
c'est fait exprès.
Il y a un film d'archives, mais non.
Voilà. Mais c'est fait exprès pour qu'ils ne s'expliquent pas. Parce que pour moi, eux, ils ont les cadres. Ils ont la télévision nationale, ils ont tout, ils ont les rapports. Ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent dire, moi, je le sais déjà. Voilà.
on le sait toujours.
On sait toujours.
Donc, je rappelle que nous sommes avec Michel Kazongo afin de parler de Padar pour Kalsaka, ou que 2 minutes. En faisant mes petites recherches, j'ai vu que vous étiez un promoteur d'un festival, un documentaire. Hein, voilà. Je constatais que dans Padar pour Kalsaka, il y a un genre de cinéma d'intervention qu'on retrouvait jadis dans le cinéma africain, puis peut-être qu'il était moins présent. Est-ce que de l'intérieur, est-ce que c'est vraiment le cas qu'on a l'impression que le documentaire qui a été pendant un certain temps en Afrique porté par des grands réalisateurs s'est distillé avec le temps? Est-ce que c'est votre impression de comment se porte le documentaire en Afrique?
Oui, le documentaire se porte très bien. Je vais dire que c'est le genre cinématographique en Afrique qui permet des jeunes cinéastes de s'exprimer. Parce que c'est un outil aujourd'hui accessible à beaucoup de jeunes avec une autre écriture. culture aussi, mm-hmm. tu vois, qui est différent, qui est vraiment de point de vue intérieur.
Puis pas la même diffusion.
Voilà.
Ce n'est plus dans les salles.
Exactement, ça peut être vu partout. Et c'est là d'où vient l'idée de mon festival, Kudgudok, qui a justement été créé pour donner cette possibilité alternative de voir des films partout, sans que ça soit une élite, entre guillemets, avant qu'ils regardaient les films pour les analyser, parce qu'ils avaient des démarches un peu ethnographiques. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, le documentaire, il fait partie de du cinéma créatif. Et là, il y a un public au Burkina, en Afrique, qui s'intéresse beaucoup mm-hmm. à ce genre de cinématographique. Et donc, ce festival Kudgudok, effectivement, c'est des projections en l'air libre, gratuit, et tout le monde vient voir, et c'est comme une école du soir, comme disait Samben Ousmane.
Ah, ouais. Voilà. Ah, notre grand prophète qu'on aime beaucoup, Samben.
Le grand Samben. Oui.
Donc, on rappelle que Padar pour Kalsaka est présenté demain à 18h au cinéma Cinéplex Quartier Latin, salle 12. Bien sûr, Michel Kazongo, vous allez être sur place pour répondre aux questions.
Yes.
Donc, merci beaucoup. Donc, nous vous invitons à voir Padar pour Kalsaka, bien sûr, dans le cadre des 22e rencontres internationales du documentaire de Montréal. Et voilà, et on écoute une de vos musiques du film. C'est la musique de générique.
De générique, ouais.
Merci beaucoup.
Merci
Michel.
Bien. Merci.